du papier, de l'encre, des mots, mais pas forcément de la littérature. Bienvenue sur les marges de la littérature. Je suis invitée aujourd'hui chez un auteur contrebandier, un vieux renard, comme il aime à dire, un ferrailleur de phrases. Bonjour Alain Cadéo. C'est toujours un peu impressionnant d'entrer dans l'univers d'un auteur, le lieu où vous écrivez, où vos pensées se transforment en mots. Je vous propose pour commencer notre émission de vous placer avec moi sur le bord de votre carrière, sur la marge, et d'observer un instant comment vous êtes tombé dans cette passion pour l'écriture.
Oui, on voit que déjà le mot carrière me fait sourire. J'ai l'impression d'être au bord d'une falaise de marbre. C'est très michel-angelesque, hein, mais bon, le mot carrière, ça m'amuse. Depuis fort longtemps, effectivement, je pensais que le verbe était une manière de mieux cerner l'humain. Avec toutes les difficultés inhérentes au jeune âge que j'avais alors, parce que j'imaginais que la littérature, c'était raconter une histoire. Bon. Et je me suis très vite rendu compte que si j'aimais raconter des histoires aux enfants, je n'aime pas trop en raconter aux adultes. Les enfants, j'adore. Hein. J'ai passé mon temps à raconter aux enfants des tas d'histoires. Mais c'était avec soit pour les endormir le soir, soit lors de promenades, de choses comme ça, etc. Donc là, ça m'allait très bien. Mais dès qu'il s'agissait d'écrire avec une construction particulière, une histoire avec chapitres, etc., là, j'étais beaucoup moins à l'aise. Et au fond, non, c'était pas mon langage. Donc très rapidement, et puis je m'en rendais compte aussi de par mes lectures, je m'apercevais que la poésie pure, malarméenne, était ce qui me faisait toucher du doigt, c'est d'ailleurs presque paradoxal, mais ouais, toucher du doigt l'immatériel. Au fond, ce qui m'intéressait, c'était l'immatériel. Bon. Donc déjà, j'étais mal barré. Hein. C'était plus en marge, c'était émargé. Voilà. Et m'éloignant de plus en plus dans ces constellations du verbe originel, il y a d'ailleurs une phrase d'André Chouraqui que j'aime beaucoup, qui dit... ce verbe que vous prononcez aujourd'hui n'est pas le verbe originel. Autrement dit, les mots semblent avoir, au fil des siècles et des millénaires, perdu leur sens premier. Partant de là, nous ne savons plus ce que nous disons, nous faisons semblant de nous entendre, mais en réalité, nous ne nous entendons pas. Bon. Donc, moi, je me suis aperçu que la poésie était probablement l'élément qui permettait de nous rapprocher le plus possible de ce côté primitif qui, moi, me touche infiniment.
Lorsque, vaillant trappeur, de nuit et silencieux, tu pars chasser les mots sauvages comme la loutre et le renard, tous tes sens en éveil, tu as avec toi ton grand collet de lune rousse, un filet d'encre noire, une fringale de titan. Et tu attrapes vivant un gibier aux poils ébouriffés qui hume et sent le thym et les marais, la terre, le vinaigre d'étoiles et le silex griffé. Les mots, aux dents luisantes et pointues, se débattent en rond. Cœur battant et les yeux grands ouverts, langue pendante, ils attendent que je leur rende leur liberté. Il faut les voir, à peine relâchés, ils fuient à toute allure. Alors, il ne te reste rien entre les mains. Rien. À peine autour de toi, au bout des doigts, le goût du musc, du serpolet, cette poudre électrique comme un parfum ayant frôlé la perfection. L'animal n'est vivant que libre et sans entrave. Derrière les barreaux et les carrés de nos cahiers, il a déjà la mer fumée du faisandé. C'était un extrait des Mots de contrebande aux éditions La Trace. Effectivement, on sent une base qui serait un petit peu vers la recherche de cette parole originelle dans ce que vous faites, mais vous avez écrit des romans, vous avez écrit des nouvelles, et j'ai remarqué, quand on lit la liste de vos écrits, qu'il y a en sous-titre de « Océan vertical »,« Macadam épitaphe », ou bien « Le ciel au ventre », ou « Fin », et encore « Des mots de contrebande », on appelle ça texte.
Texte, oui, absolument. J'y tenais beaucoup.
C'est vous qui avez choisi.
Oui, absolument.
C'est comme s'il manquait une désignation sur les étagères de nos bibliothèques.
Le terme texte existe. Il y a des précédents célèbres. Doit-on considérer, par exemple, Ulysse d'Homère comme un roman? Non, c'est un texte. Bon, initiatique, certes, mais c'est un texte. Je dois dire que l'appellation texte, pour moi, est beaucoup plus confortable. Le mot roman, ayant peut-être perdu un peu son sens. Hein. J'aime le roman picaresque, par exemple, mais je pense qu'il faut l'associer à quelque chose comme picaresque, par exemple, d'où mon amour pour Don Quichotte, ou le Lazario de Tormes, enfin ce genre d'œuvre, parce que là, je suis plus à l'aise, il y a effectivement un cheminement qui conduit le lecteur à une approche du monde progressive, avec des étapes... Mais il n'y a pas cette volonté de planter son ego au sein d'une quantité plus ou moins grande de pages, enfin de raconter son histoire, au fond. Moi. Je pense que l'histoire individuelle n'a aucun intérêt. Évidemment, elle est intéressante, c'est pas ce que je veux dire, mais elle n'a aucun intérêt s'il ne s'agit que de raconter ma petite expérience, ma douleur, ma souffrance, mon machin, etc. Bon, ça, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Je vous disais, il n'y a pas très longtemps, il y a une cinquantaine d'années, combien de gens, et puis de vous-même, vous en avez rencontré, vous ont dit, ah, alors moi, si vous saviez, avec la vie que j'ai vécue, je pourrais en écrire des livres. Bon, et il se trouve qu'aujourd'hui, chacun raconte son histoire. Alors, je n'ai rien contre, c'est pas le problème. Mais pour moi, ça n'est pas l'écriture que je souhaite. Je la lis volontiers, vous savez, c'est comme les films de série B. Moi, je les regarde volontiers, je suis très bon spectateur. Hein. Je peux voir un mauvais film, un bon film, puis je regarde, parce que je trouve que toute expérience est intéressante. Mais c'est vrai que ce qui m'a marqué adolescent, c'est ce qu'on peut appeler, enfin, je pense que pour vous, c'est la même chose, c'est ce qu'on peut appeler les chefs-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Voilà. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un, je sais pas, un poème, un grand poème, etc. Je pense que ça reste un mystère, en définitive. Hein. Le chef-d'œuvre, c'est ce qui vous fait trembler, frissonner, vous déstabilise complètement, parce que, justement, il n'y a pas d'anecdote particulière, il n'y a pas de fil conducteur, il y a simplement une terrible personnalité en train d'exercer, je dirais, son propre mystère sur le papier, la toile, la pierre, enfin, peu importe. Ce qui me fascine, c'est ça. Alors, certains auteurs, quand j'étais plus jeune, m'ont mis un peu sur la voie, je pense à Blaise Sandra, je pense à Henri Miller, et je les cite toujours, parce que finalement, j'en ai pas 36. Si, j'en ai beaucoup d'autres, mais enfin, je cite ceux-là, c'est le plus simple. Je pense évidemment à Dostoïevski. Bon. Est-ce qu'on doit considérer que Dostoïevski est un romancier? Je ne le crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, il y a une intrigue, bien sûr, il y a des personnages, mais il y a surtout ça. Je dirais ces intuitions fulgurantes, cette espèce de ces visions qu'il peut avoir, et il arrive à les transfuser littéralement dans des personnages et à les rendre tellement bouleversants, tellement vivants, que comme dirait je ne sais qui, tout le reste est littérature. Alors je n'aime pas au fond la littérature. J'aime ceux qui sont habités, et d'une façon tellement profonde, vaste, grande, que là, il n'y a plus de termes roman ou machin, moi je dirais texte au sens textuel, Il y a le mot test dedans également, hein, ce qui est en tête, hein, puisque j'évoquais André Chouraqui, vous savez, il y avait au début était le verbe, et lui, de l'araméen, il le traduit par en tête, E-N-T-E, accent circonflexe, T, en tête, au début. Et je trouve que les êtres qui ont cette approche des origines du monde et de l'humain sont les plus bouleversants pour moi. Donc le romancier, voilà, c'est romancé, hein, c'est autre chose.
Non mais vous, en plus, vous l'avez bien expliqué. C'est pas une histoire.
J'écrivais ça, tiens. J'écrivais ça hier, ou avant-hier. Non, ouais, c'est... Bon, je vais m'asseoir parce que ça ira mieux.
Chez Alain Cadéo, il faut baisser la tête pour passer la porte d'entrée. Au sol, la pierre, lissée par les années. Une petite marche polie. Un passage sombre, étroit, sinueux. On entre dans la grotte. La lumière manque un peu. Alors on lève les yeux. Suspendue au plafond flotte une caravelle. Tournée, comme nous, vers un carré de verdure. Dehors, l'île, luxuriante. Dedans, le bois, le cuir, les tentures. Dans une niche à même la pierre, un bénitier géant, main tendue, remplie de coquillages, cornes d'abondance. La nacre étincelle, qui eût cru que les astres peuplent aussi les océans? Alain Cadéo, pirate, contrebandier, bienheureux Robinson. Mais à qui donc est ce crâne chapeauté par les ailes déployées d'un papillon? Ces orbites béantes, attendries, dirait-on, face à un œuf bleuté, enfermé avec lui sous la cloche de verre. Insolite rencontre. Un crâne, un œuf, un papillon. Et l'horloge, de temps en temps, qui soupire ou qui râle, on ne sait pas. Il y a sur le bureau tout un cortège de pierres précieuses, un cirque de chimères, de plumes, de fleurs séchées, un public disparate, des yeux partout. Un peu en retrait, une troupe de statuettes africaines ricanent en silence. Et puis, sous les feux du projecteur, le grand cahier ouvert, venu d'un autre temps. Papier paysage au sol irrégulier. Un peu comme une terre qui vient d'être labourée. L'encre y a creusé des sillons en lignes régulières. Des petits champs carrés, posés ici et là. Jamais tout à fait droits, jamais fidèles au vertical. Les mots semblent affranchis. Pas de cadre, pas de case, pas de bienséance et pas de hiérarchie. Tout est à la fois essentiel et émargé. Tout fait corps ainsi. On revient à la terre. On baisse un peu la tête en signe d'humilité. Et l'horloge, de temps en temps, qui soupire ou qui râle, on ne sait pas. Alain, vous avez une autre activité qui est en marge de la littérature et qui me paraît fondamentale dans la façon dont vous abordez le réel tel que vous voulez le transcrire. Vous allez visiter des malades en soins palliatifs régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce suivi que vous faites depuis plusieurs années?
Je fais ça avec mon frère. Et mon frère est peintre. Nous avions contacté ce centre de soins palliatifs il y a quelques années, effectivement, en souhaitant intervenir d'une manière ou d'une autre. Bon, chose qui nous a été accordée, et depuis nous y allons effectivement régulièrement. C'était une épreuve difficile, c'est toujours difficile.
Ce qui est frappant, si vous voulez, dans cette expérience, qui est plus qu'une expérience d'ailleurs, c'est de découvrir que tout individu en fin de vie, quelque âge qu'il puisse avoir, masculin, féminin, quelques fonctions qu'il ait pu honorer, se retrouve dans ce que je pourrais appeler une singularité fondamentale, cet en dehors de la société, cet en dehors de la comédie humaine, cet en dehors de tous les artifices, qui fait que vous êtes face à un bloc d'humanité que vous pouvez ou non, avec la parole, le regard, accompagner, j'allais dire par moments ressusciter, parce que l'émotion est toujours là, fleur de peau, et ne sachant rien faire d'autre, maintenant vous commencez à le savoir, que d'écrire, j'ai proposé, une fois que j'avais rencontré ces êtres, qui quelquefois n'en avaient plus pour très longtemps, de leur écrire. Et quant à mon frère, lui, il fait des croquis souvent des visages que nous avons en face de nous. Je l'ai rencontré et le lendemain matin, très vite, j'insiste sur la notion d'urgence. C'est peut-être ça qui me fait dire aujourd'hui, j'en ai assez de cette société qui vous fait attendre. Il y a trop de gens qui attendent. Il n'y a pas assez d'êtres qui répondent. On vit tous comme si on était éternel. On est vraiment une couronne de couillons absolument dramatique. Je trouve que quand vous écoutez, quand vous entendez quelqu'un, il est de votre devoir de lui répondre. Et donc, dans l'urgence, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas pour longtemps, le lendemain matin, je leur envoie un mail qui est transmis par le biais du psychologue. Et là-dessus, ces patients ont souhaité répondre. Hein, c'est un peu les dernières lettres, vous pourrez penser ça. Et soit ils peuvent répondre parce qu'ils en ont les moyens, soit ils ne peuvent pas, pour X raisons médicales et autres, et à ce moment-là, ils dictent aux psychologues ce qu'ils veulent nous transmettre. Soit c'est le psychologue lui-même qui nous fait part des impressions qu'il a retenues en lisant mes lettres. Et il se trouve qu'au bout de 5 ans d'intervention de ce type, le groupe médecins, psychologues, patients, infirmiers et intervenants, nous avons souhaité publier ces dernières lettres. Et je vous avouerai que c'est probablement l'ouvrage auquel je tiens le plus. Là, tout d'un coup, l'homme est nu, absolument nu. C'est tellement touchant de pouvoir approcher cette vérité, quoi, et de pouvoir la transmettre. Je sais que chaque fois que j'y vais, c'est un peu avec beaucoup d'appréhension. C'est pas simple, c'est pas toujours très simple. Et puis, alors, ce qui est miraculeux, la plupart du temps, c'est que le rire est toujours là. Il y a toujours cette capacité de séduire et de rire. Autrement dit, je ne sais plus qui disait, il faut toujours, y compris en fin de vie, recréer de la séduction. Si vous savez recréer cette séduction, vous faites revivre. Alors, ça va pas durer, mais c'est la plus belle floraison. C'est cette plante qui fleurit d'une façon absolument sublime, alors que 3 mois après, il ne sera plus là. Bon, c'est un peu ça, les êtres humains. C'est la dernière floraison, mais c'est la plus belle.
Merci Alain Cadéo. Merci de m'avoir accueilli le temps d'une émission dans votre bureau, votre île de Robinson, au milieu de vos bois flottés, vos cailloux, vos plumes, vos encres et vos grimoires. L'encre était à peine sèche ce matin, quand je suis arrivée, et vous m'avez fait le cadeau de m'en faire la lecture. Sur ces immenses feuilles de papier boursouflées, j'écoutais votre voix, et en même temps, j'avais l'impression d'entrer dans une sorte de chambre secrète, parce qu'autour des lignes que vous lisiez, j'ai sillonné du regard vos marges, vos innombrables scolies, et j'ai de suite senti que mon émission allait prendre tout son sens. Notre collection d'émissions est en ligne sur notre site, accompagnée par une page de référence et de documentation sur notre invité. N'hésitez pas à interagir et à nous solliciter. Nous serons ravis de vous retrouver ici ou là, sur les marges de la littérature.